On a parlé de la main-d'œuvre, de faire venir de la main-d'œuvre. On sait que dans nos provinces, surtout ici du côté de l'Atlantique, on doit passer par l'immigration. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas le cacher, vous l'avez compris juste quand on s'est parlé. Je suis assez bien placé pour savoir que le parcours migratoire peut des fois être un petit peu compliqué, voire même décourageant pour certains. Ici, par exemple, au Nouveau-Brunswick, c'est compliqué pour se loger. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans le budget à l'avenir pour aider, simplifier, encourager les parcours migratoire?
Il y a plusieurs éléments de votre question, très bien posés d'ailleurs. En premier, on a besoin d'inviter les gens ici pour nous aider à construire les maisons. Ça, c'est clair. Parce que toute notre croissance de main-d'œuvre maintenant vient des gens de l'extérieur du Canada. Et d'ici 2032, toute notre croissance comme pays va venir de l'extérieur du Canada. Et 2022, c'est la première année où on a vu la population du pays croître par 1 million de gens. C'est la première fois qu'on a vu tellement une grande croissance. Et en ce qui concerne la préparation pour les gens quand ils arrivent, en premier, une question de logement. Donc, ça, c'est où la Société canadienne de logement et hypothèque, c'est très important pour nous. Et on sait qu'ils visent des projets ici directement à Saint-Jean. Et on parle des foyers abordables et des foyers un peu moins du marché, mais aussi construction des logements qui sont accessibles aux gens de marché parce qu'on ne peut pas inviter les gens s'ils n'ont pas un foyer à se loger. Ça, c'est clair. En ce qui concerne l'accréditation des compétences, pour moi, c'est vraiment un travail qui doit se faire avec les provinces. Et là, on est rendu au point dans le système de santé qu'on va juste créer une nouvelle, comment on peut dire, programme de reconnaissance des compétences nationales que les provinces doivent respecter. Parce qu'on n'a pas vu assez de mouvement par les organismes qui gèrent ces compétences à chaque province et territoire. Donc, pour des besoins économiques du pays et de notre futur, il faut qu'on agisse et c'est ça qu'on a mis dans le budget.
On va parler énergie verte, vous l'avez abordé aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, il semblerait qu'effectivement, ça tienne à cœur de ce gouvernement que d'aller vers plus de vert. Mais il y a encore quand même des subventions à l'industrie pétrolière. On sait ce que c'est ici à Saint-Jean, il y a beaucoup de monde qui vit de ça ici.
Oui.
Il n'y a pas un paradoxe dans ça?
Mais moi, je viens de l'Alberta, donc je vis dans un paradoxe. Je suis un libéral de l'Alberta, donc imaginez-vous. Mais regarde, ce qui est important, c'est qu'on a des subventions pour des pétroliers et c'est en 23 que ça s'arrête. Donc, on a fait cette...
Ça va vraiment s'arrêter.
Oui, absolument. Regardez, en ce qui concerne la capturation de carbone et l'entreposage de carbone, ça c'est un financement qui est très important pour qu'on puisse arriver d'ici 2005 à la carbone neutralité. Et on a besoin des milliards de dollars qui sont dans les coffres des pétroliers pour y arriver. Je vous donne un exemple. Dans mon comté de Edmonton Centre, il y a même une semaine avec François-Philippe Champagne, on a fait l'annonce que au Canada, on va avoir le premier fabrique de ciment qui va être carbone neutre d'ici 2 ans. Okay. Et on va investir 1,4 milliard de dollars en se faisant. Et la raison pour laquelle ils ont fait l'annonce, ils ont décidé de le faire, c'est à cause des crédits d'impôt qui sont dans ce budget. Donc, on sait que ces crédits d'impôt qui sont ciblés, qui sont, sont vraiment misés sur la carbone neutralité, font la différence pour attirer des milliards de dollars ici dans notre écosystème. Ça, c'est pourquoi travailler avec ces compagnies pétrolières, c'est très important. Mais sachez que les subventions en 2023 s'arrêtent.
Bien. On sait qu'ici, au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a fait des économies ces dernières années. Il y a des surplus qui ont été communiqués encore récemment. Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue avec des représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick pendant votre passage? Est-ce que vous allez leur dire « Hey, dépensez peut-être un peu plus »
Pour moi, pas cette visite ici, mais je fais partie des rencontres provinciales territoriales avec mon homologue en tourisme et aussi en finance avec Mme Freeland. Donc, on a ces rencontres quelques fois par année. Ce que je peux dire, c'est que on est tous dans le même bateau. Et les commettants, quand on cogne les portes, quand on jase avec les gens, ils veulent qu'on travaille ensemble. Ça, c'est clair. Je l'ai en Alberta, je l'ai bien entendu ici et je pense qu'on est mieux en ce qui concerne le pays et aussi notre communauté. Si le municipal, le fédéral, le provincial et les chefs autochtones travaillent ensemble. Regarde, je vais aller voir aujourd'hui toutes les carrés de trains qu'on met sur les les navires et dans le port, la zone le conteneur, dans la zone 506.
Ouais.
Ça, c'était du jamais vu. Et ça, il y a 5 ans, on n'aurait jamais pensé à ça. Et déjà, la zone 506 reçoit des prix au niveau national en tourisme parce que le port ici avait besoin d'une identité, quoi. Mm-hmm. Mais regarde, avec tout ce que le développement qu'on voit, c'est financé par le fédéral. Même on voit toutes les installations. Je pense que l'annonce a été faite pour le musée qui s'en vient. Et donc, le député Wayne Long et avec l'Agence de développement régional ici de l'Atlantique, on est très près des gens ici en Saint-Jean et au Nouveau-Brunswick et on veut continuer ce partenariat. Et en ce qui concerne des investissements de l'infrastructure, c'est là où c'est vraiment important de travailler avec la province.
On m'a parlé dernièrement d'une possibilité de rouvrir une ligne pétrolière entre Saint-Jean et l'Ouest, en passant peut-être par le Sud, en passant donc par nos voisins des États-Unis plutôt que par le Québec. C'est des choses qui seraient envisageables, effectivement, ou pas?
Mais regardez, tout a changé le 24 février l'an dernier avec la guerre en Ukraine. On sait que le Canada a ce dont le monde a besoin. Si on parle des minéraux critiques, si on parle de notre gaz naturel liquéfié, si on parle de pétrole, si on parle vraiment de juste nourrir le monde. Et cette réorientation des chaînes d'approvisionnement, mais plus que ça, comment les pays vont se tenir ensemble? Quand le président Biden était dans la Chambre des communes, il a dit très clairement, je mets l'argent dans notre armée pour aller vous aider comme Canadien d'aller pas seulement miner les mines critiques, mais que vous faites le raffinement ici au Canada et ensuite on va les acheter. Parce que cette fois-ci, moi, je ne veux pas qu'on sorte les minéraux critiques et on les donne aux Américains et Japonais à l'Allemagne pour avoir les bons emplois chez eux. Moi, je veux que ces emplois restent ici au Canada.
Pour finir, je vais aborder avec vous un sujet qui nous concerne nous directement en tant que radio communautaire. Mm-hmm. Beaucoup de radios communautaires sont tributaires de financements qui passent notamment par le FCRC, le Fonds canadien pour la radio communautaire.
Oui.
C'est le cas notamment avec le programme Initiative Journalisme Local. C'est ce programme qui permet à beaucoup de ces radios d'avoir des journalistes. C'est ce programme qui permet qu'on ait cette discussion-là ensemble aujourd'hui. Donc sur le budget, on a appris que le financement était OK jusqu'au 1er avril 2024, mais on ne sait pas ce qu'il en sera après. Je ne vais pas vous demander de me faire un chèque là tout de suite pour l'année prochaine, hein, ce n'est pas le genre de la maison, mais juste on m'en voudrait. Si je ne vous en parlais pas, on m'en aurait voulu.
Non, il faut. Et regarde, j'ai lutté pour ce fonds quand j'étais secrétaire parlementaire pour le ministre Joly à l'époque. Et moi, j'ai reçu le financement pour la radio communautaire dans ma propre ville d'Edmonton.
Donc, vous savez de quoi on parle.
Oui. Et je tiens très à cœur de radio communautaire en anglais, en français, dans les autres langues. Mais pour moi, c'est vraiment une question de patrimoine. Et vraiment de continuer. Et regarde, Radio-Can, c'est très important aussi. Mais moi, j'adore ce que vous faites comme radio communautaire. C'est très important. Et donc, là, je parle en code. Qu'il y a d'autres 4 autres documents budgétaires. Et il faut continuer à que la communauté nous pousse et qu'on est en train de voir tout ce que vous faites sur le terrain.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que d'ici au 31 mars, des solutions seront trouvées pour maintenir le financement de ces initiatives journalistiques.
Je pense que c'est un travail qu'il va falloir faire avec les associations ici pour les Acadiens ici dans Nouveau-Brunswick, mais aussi à travers le pays. Je pense que le réseau des radios communautaires est très fort et il va falloir continuer à pousser. Et sachez que vous avez des alliés au sein du gouvernement.
Donc, vous ne m'avez pas signé le chèque, mais presque.
J'ai pas de stylo, mais je vois le chèque en tête dans le futur.
OK. Merci, M. Boissonneau, d'être venu nous voir.
Très grand plaisir.
Bonne visite à Saint-Jean et dans la région. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de l'extérieur pour leur donner envie de venir visiter Saint-Jean cet été pour le tourisme?
Ah, mais vous n'allez pas pu croire ce que vous allez saisir ici de Saint-Jean avec le port, avec la bouffe, avec les gens. Je pense qu'il y avait aucune personne que j'ai croisée aujourd'hui qui n'était pas salue. Bonne journée, comment ça va? Donc, un accueil chaleureux et un temps inoubliable.
Merci, M. Boissonneau.
Merci.